Enquête de cinéma sur Radio Kader et sur dérive.tv en podcast.
J'aurais dû me méfier, je me suis laissé prendre. Cette idée est insupportable.
Tu souffres.
J'ai tout avoué.
T'en seras tenu compte?
Bien l'instruction, je nierai. Ils ont rendu fil à retordre. Pourquoi es-tu venu?
Je n'ai plus que toi.
Pour que je te dise que j'ai mal agi et que tu triomphes. Je ne veux personne, rien. Reste. Il y avait autre chose que je ne lui avais pas dit. Pourquoi vivre? Je n'avais rien décidé encore. Jeanne ne revint pas. À la lecture de cette lettre, mon cœur a battu violemment. Quelque chose illumina sa figure. Oh Jeanne, pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre.
Jeudi 4 février 2021, nous sommes heureux d'accueillir Jean-Claude Rousseau pour faire une traversée de son cinéma. Nous sommes toujours en compagnie de David Yon, Fabrice Coppin, et nous accueillons aussi un ami, Pierre Louap, Pierre Audouard, qui va participer avec nous à cette émission. Et pour commencer tout de suite cette émission, un texte de David Yon, un grand fan de Jean-Claude Rousseau.
Donc c'est un texte qui date de 2004, où j'étais étudiant en maîtrise d'études cinématographiques à Lyon 2. Lorsque Robert Bresson est mort, il y a eu une rétrospective de ses films à Paris. À l'époque, je n'en avais vu aucun. J'ai senti que c'était le moment. Il s'agissait de la projection de 22 heures du film Journal d'un curé de campagne. Alors que cette expérience remonte à plus de 5 ans, je me souviens exactement de la place que j'occupais dans la salle, de l'espace autour de moi. Je me souviens presque des visages qui m'entouraient. Le film se déroula comme une sorte de messe, avec des moments difficiles. Il y avait des résistances en moi. Mais à la fin, lorsque l'on entend les paroles de cet homme au bord de la mort, tout est grâce, le film m'avait enfin transpercé. Je suis resté là, un moment dans la salle, et je regardais intensément les visages qui m'entouraient. Ils étaient beaux, quelque chose avait grandi en eux et en moi, le germe d'une foi en la vie. Dehors, il avait plu, le sol était mouillé, et les lumières se reflétaient sur le bitume. Des gens dans les bars, la statue de Balzac, les arbres des squares, les fenêtres éclairées où de l'autre côté des gens vivaient, tout était juste, à sa place, et donc beau. Je me souviens de tous ces détails très nettement dans mon esprit, comme si j'avais eu la sensation aiguë du monde qui m'entourait, comme si j'avais enfin trouvé la place juste pour habiter le monde. Cette année, lorsque j'ai vu le film La Vallée Close de Jean-Claude Rousseau, chez moi en cassette vidéo, j'ai retrouvé ce même sentiment, et je me souviens très précisément de mes sensations à la fin du film. Je suis allé remplir un verre d'eau, je l'ai posé sur la table, le verre était transparent, et j'avais une profonde conscience de ce qu'était ce verre, et de ce qu'était cette eau. J'ai bu des petites gorgées, la fraîcheur dans mon corps. Après, je suis allé face à ma fenêtre. La lune, la forme des immeubles, les fenêtres éclairées, tout était là. Quand j'ai rencontré Jean-Claude Rousseau pour la première fois en novembre 2003, je lui ai fait part de cela. Il a souri et a dit que c'était l'effet que lui produisaient les films qui ont compté dans sa vie. Lorsque j'ai eu envie de le rencontrer, je n'avais pas encore vu ses films, mais j'avais l'intuition forte qu'il pouvait apporter quelque chose d'essentiel à mes recherches. Par le biais des cahiers du cinéma, j'avais pu accéder à des images de ses films et à des textes à son sujet. Je savais que quelque part en France, un homme fabriquait seul ses films avec son regard, son écoute et ses mains. Dans le secret, il attendait que la lumière se dépose sur la pellicule pour révéler le monde. Dans un article, j'avais lu cette phrase de Jean-Claude Rousseau : « Il n'y a que le lieu ». Même si je ne la comprenais pas, elle a résonné en moi. Ma première approche approfondie de la pensée de Jean-Claude Rousseau a été son livre « Le concert champêtre », dont voici un extrait. Ainsi donc, il revenait seul au même endroit. Il était seul à l'endroit qu'elle aimait. Peut-être était-il normal qu'elle abandonne son visage, son village, les collines et les rivières, pour que lui soit seul à veiller sur tous ces lieux. À lui de faire vivre les souvenirs au rythme des saisons, jusqu'à ce qu'un matin d'été, peut-être au milieu d'un pré d'herbe haute, trois petits points. Les films de Jean-Claude Rousseau n'étaient visibles qu'à Paris, et il n'y avait pas encore de diffusion de films sur Internet. Pour pouvoir les voir, j'ai écrit sur la mailing list Nick Talop, et le soir, Catherine Barrault me téléphona. Elle me prêta une VHS de La Vallée Close qui était passée sur Zaléa TV, présentée par Nicolas Rey de L'Abominable. C'est la rencontre avec Jean-Claude Rousseau qui m'a poussé à vouloir créer des rives afin de diffuser ses films. Le premier numéro de la revue est paru en 2007 et s'intitule « Des rives autour de Jean-Claude Rousseau ». Et sur les DVD accompagnant la revue, il y avait son premier film « Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre ». Voilà plusieurs années, une nuit, j'ai rêvé d'un débat après une projection d'un film de Jean-Claude Rousseau. Un spectateur, en colère, se levait et lui reprochait d'être toujours au centre de ses films. Jean-Claude Rousseau répondait calmement « Je ne suis pas au centre, je me rapproche du centre. » Pour comprendre ce qu'est ce centre, je vais lire le début du texte de présentation du film « Jeune femme à sa fenêtre, lisant une lettre » écrit par Jean-Claude Rousseau en 1988. il est préférable de ne pas savoir. Le peu qu'on découvre doit rester caché. Il y a cette condition du secret pour que les choses se mettent en place. On ne sait pas où l'on va, de quelle façon il y aura un film, sans rien qui puisse être dit, dans le plus grand silence s'animent les éléments. On peut seulement conserver le cadre, garder l'orientation, sans motif apparent. Le motif, on ne le connaît pas. Il n'y a pas de projet, seulement le désir. Dans Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre, les bobines se succèdent comme l'exposition d'un manque, c'est-à-dire comme une évocation du désir. Pas de projet à accomplir, pas de découpage à suivre, chaque bobine reste entière. Éviter d'intervenir. Garder les prises de vue comme elles sont, ne pas chercher de modification par le jeu du montage, laisser les éléments aller d'eux-mêmes à leur place, attendre qu'ils s'ajustent en prenant la lumière. La beauté n'apparaît pas où on la cherche. Sa révélation est toujours surprenante. Il suffit de dessiner un fragment du cercle pour révéler le cercle entier et reconnaître le centre sans qu'il soit montré. C'est ce lieu qui est le véritable motif de l'œuvre. On est tenu écarté, on ne peut qu'en faire le tour, ouvrir le compas. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire paraître que de décrire la circonférence. Le motif est là où perce la pointe du compas. Il est cette entaille, ce manque, il n'est rien. Il y a plus de 16 ans, donc c'était la première rencontre avec Jean-Claude Rousseau. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Jean-Claude Rousseau à Marseille et de lui présenter des amis avec qui nous faisons des films. Je peux juste dire que Jean-Claude vient de terminer un film, très très beau film, qui s'appelle Un monde flottant, qui a été tourné au Japon et qui, j'espère, sera bientôt visible dans les cinémas.
Le cinéma du réel, en fait.
Ah bon ? D'accord, bon, bah alors il sera visible au cinéma du réel en mars, alors ?
Oui.
À Paris. Et qu'il vient aussi d'être édité un livre, Les draps pliés du grand lit, aux éditions de l'Œil. Et qu'on l'a avec nous. Et aussi qu'à partir du 24 février, si tout va bien, Jean-Claude va partir en Espagne pour un cycle autour de ses films qui s'intitule La lumière réfléchie à travers les choses. Eh bien, merci Jean-Claude, et je vous laisse la parole.
Alors Jean-Claude, comment tu réagirais à cette lecture de ce David que tu connais depuis 16 ans ?
Oui, en effet, c'est magnifique ce qu'il a commencé par lire, c'est-à-dire, je ne parle pas de ce qu'il a cité, de ce que j'ai pu écrire, mais des extraits de son mémoire. Et donc... Et donc c'est bien qu'il ait provoqué, qu'il ait eu l'idée de cette rencontre il y a fort longtemps. Et je lui rappelais quelque chose qui est sans importance, c'est la couleur qui me vient à l'esprit. Il ne s'en souvient pas, mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait une orange sur la table devant laquelle nous nous sommes assis pour cet entretien assez long, et il appelait l'orange et il l'a mangée. Pourquoi est-ce que ce souvenir s'attarde pour moi là ? Et je le garde, vous l'avez perdu ce souvenir. Bon, c'est probablement la couleur. Mais ce qui me revient à l'esprit là maintenant, c'est que cet entretien, contrairement à ce que nous faisons dans l'instant, était filmé. Parce qu'en fait, l'enregistrement, vous le faisiez sur une caméra mini DV. Et il me semblait qu'on ne peut pas déclencher une caméra simplement pour enregistrer du son. Donc elle voyait quelque chose. Elle ne peut pas voir n'importe quoi. Et ça, peut-être, par contre, vous vous le rappelez. Donc c'était orienter la caméra de telle façon qu'elle nous montre, même si le but n'était pas du tout de faire l'image, mais seulement d'enregistrer, qu'elle nous montre un cadre juste. Et je me rappelle qu'orienter dans l'axe, sans biaiser, face à un mur, ou plutôt à un placard, à la porte de ce placard, pendait une ceinture. Et donc, il faisait une ligne verticale. Et là, j'ai vu un cadre juste. Et la prise s'est faite de cette manière-là. Là où les prises Parce que je crois qu'il y a plusieurs mini-DV de ce qu'on a fait il y a si longtemps. Donc vous le rappeliez, c'est quand ça? C'est il y a 15 ans, et bon, il n'y a pas 20 ans. Et...
Novembre 2003.
Bon, c'est pas très important de considérer toutes ces années qui sont passées. Mais le fait est qu'on se retrouve là. Et j'étais rassuré, quand, bien que vous ayez parlé de plan séquence, d'apprendre qu'il n'y avait pas de caméra qui allait faire de prise image. Et donc, on va s'entendre dans tous les sens du terme.
Pierre, avec ce début d'émission, est-ce qu'a lu David ? Est-ce que toi, ça t'évoque des questions que tu as envie de poser à Jean-Claude ?
J'aimerais bien... Bon, j'aimerais bien l'entendre parler de l'image, mais... Et des symétries, par exemple. Parce que je me demandais, en écoutant sur la verticalité, est-ce que c'était que le plan ? Ça m'a interrogé sur qu'est-ce qu'on cherche à mettre dans une image ? Et est-ce qu'on s'occupe de la symétrie ?
Oui, alors donc, c'est peut-être réagir tout de suite à un mot qui est cherché. Qu'est-ce qu'on cherche à mettre dans l'image ? Non, là, ça ne va pas du tout. Là. Il n'est pas question de mettre quoi que ce soit dans une image. L'image, on la voit. On la voit, on la ressent. Elle nous saisit. Mais elle ne se compose pas. C'est ça que ça voudrait dire. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'image ? Soit on voit l'image, et dans ce cas-là, ce n'est pas nous qui la saisissons, c'est elle qui nous saisit. On ne réfléchit pas les raisons qui font que la pensée, en fait, s'interrompt dans ce moment de vision. Voir l'image, donc, ça peut laisser une trace si on a le matériel qui permet de l'enregistrer, que ce soit une caméra ou aussi bien un appareil photographique, mais ce n'est pas nécessaire pour voir l'image. Voir l'image, c'est finalement assez commun. Quand on est en compagnie, en se promenant, et que celui ou celle qui est avec vous paraît s'absenter, ou en tout cas a le regard tendu sur quelque chose que vous-même vous ne voyez pas, et une impression d'absence, il est en quelque sorte ailleurs. Et si vous lui posez la question « qu'est-ce que tu vois ?» la réponse, s'il a vu l'image, ça sera rien. Et il est de retour. Donc, c'est un saisissement. Voir l'image. Donc, c'est pour ça que je pensais que c'était bien tout de suite de rebondir sur cette idée de recherche, de chercher. Vous connaissez évidemment ce mot qui a été répété sous diverses formes, et en commençant par Corot. La manière dont Corot l'a dit, c'est pas exactement comme Picasso a pu le dire, mais je crois que Bresson, dans ses notes sur cinématographe, reprend le mot de Corot. Ça consiste à dire « je cherche pas, je trouve ». Ça, il me semble que c'est fondamental pour ce qui est du côté de l'art. Et donc, c'est aussi de risque. Parce que ça se présente, et le risque, c'est l'état d'abandon où ça vous met. Donc ça serait une autre citation qu'on retrouve aussi dans les notes sur cinématographe de Bresson, mais là, citant Cézanne, qui aurait peut-être dit cela, c'est Gasquet qui répète ça, mais il a peut-être inventé certaines choses. En tout cas, c'est ce qu'il ressentait de ce qu'a pu lui dire Cézanne. À chaque touche, je risque ma vie. Bon. Donc, chercher, c'est, il ne faut pas se leurrer, c'est presque inévitable, dans la mesure où on a une idée et on cherche. Mais ce qu'on trouve, c'est pas dans la recherche. C'est donné, en quelque sorte. Donc, m'attardant trop sur cette idée de chercher-trouver, j'ai oublié l'autre partie de votre remarque ou de votre question.
Mais il y a un autre aspect, c'était la réflexion sur la ligne droite, moi qui m'a frappé. Sur la ligne droite dans le plan qui désigne le fait qu'il y a un plan.
Droite, ça ne suffit pas, là, c'était de verticale que vous vouliez parler. Et donc de symétrie.
Voilà.
Donc là, ça serait dire que. C'est pas vraiment ce qu'il faut considérer. Si on part sur l'idée comme cela de symétrie et donc de recherche de la symétrie, là ça serait voir les choses un peu de la manière de ce que j'ai pu dire à l'instant là. Ça serait un calcul. C'est juste, je veux dire, mais sans calcul. Et le mot qui me viendrait à l'esprit, là, c'est aussi en rapport à cela de système et qui s'appliquerait de la même manière chaque fois qu'un film s'engage. Non, sans répéter la citation de Cézanne. Ça, c'est pas gagné d'avance parce qu'on est déjà passé par là dans ce qui a été fait précédemment. Il n'y a pas de règles qui s'appliqueraient d'une manière raisonnée et qui fait que justement on trouverait. Non, ce qui se trouve, c'est inattendu.
Il y a quand même la question de la géométrie, des rapports de forme dans l'image. Et je me souviens qu'une fois, on avait une discussion autour du nombre d'or.
Oui, alors j'hésite à parler de la justesse du cadre en évoquant le nombre d'or et on tombe dans des... notion plus ou moins ésotérique, ce qui me semble un peu dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a des rapports de lignes à l'intérieur d'un cadre que je ressens comme juste, qui peuvent mettre ça à l'esprit et on peut avoir la curiosité de voir si ça correspond à ce qui est d'une manière très précise le nombre d'or. Probablement, si ça a été parlé de ça, David, c'était évoqué cette curiosité que j'avais en étant adolescent par rapport à tel tableau de Vermeer. Quand j'ai vu Vermeer. Mais puisqu'il s'agit de voir, peut-être une parenthèse pour dire cette belle ambiguïté dans la langue française du mot « vision ». La vision, c'est le fait de voir, mais si l'on dit de quelqu'un qu'il a des visions, d'une certaine manière, c'est dire qu'il ne voit pas, à vrai dire. Ou qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Bon. Quand je parlais de saisissement, c'est en rapport évidemment à ce sens second, qu'on pourrait considérer comme premier, du terme vision. Non pas simplement le fait de voir. Bon, et cette parenthèse est un peu trop longue parce que je vais avoir du mal à reprendre le fil de ce que je disais, mais ça me permet d'en ouvrir une autre parce que l'oubli me semble très important. Parce que l'oubli, justement, de ce que l'on cherche, l'oubli du projet, rend possible, ne garantit pas. De toute façon, il n'y a plus la pensée autour de ce qu'on veut et de ce qu'on recherche. Donc, l'oubli, et il n'est pas de nature volontaire, l'oubli, hein. Donc il se trouve qu'on a oublié ce qu'on voulait et ça rend possible de... Ça peut permettre de voir ce qu'on n'aurait pas vu si seulement notre vue restait bouchée par ce qu'on a en tête. Et là, ça serait parler à propos d'image, de ce qui n'est pas une image et ce qui ne peut pas faire image, c'est l'image virtuelle. C'est-à-dire l'imaginaire, ce qu'on a dans la tête et qu'on va chercher en croyant qu'on va pouvoir trouver l'équivalent de ce qu'on a dans la tête. Ça ne fera jamais, dans le sens que je lui donne, ça ne sera jamais une image. Donc tout ça, c'est accélérer trop vite nos échanges, puisque c'est évidemment évoqué le scénario, le projet écrit, peut-être très détaillé. Mais c'est ça qui empêche de voir l'image. Ça voile la vision.
J'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin là-dedans, parce que c'est quand même un... C'est quelque chose qui est quand même précieux au regard du cinéma. Et votre exemple sur la personne qui... deux personnes qui se font ensemble et une personne qui tout d'un coup voit.
S'absente.
Là, on est dans le cadre de la vie, c'est-à-dire sans caméra. C'est le principe, on le comprend. Il y a une vision, peut-être. Mmh. Est-ce que c'est ça dont on parle? Mais en tous les cas, quelqu'un voit quelque chose. C'est presque avant de regarder, j'imagine. Me vient la question de l'art et de l'artiste, qui est une question délicate, et je sais que c'est très difficile d'en parler. Mais à propos de la vision, je me demandais si la vie permettait d'être... je dirais sans caméra, des visionnaires. Est-ce que, parce que vous dites à un moment donné, j'ai le souvenir de ça, que un artiste, ce serait celui qui verrait ou qui aurait une vision que d'autres ne pourraient pas avoir. Et je me demandais si, au regard de la vie et du cinéma, je pense qu'on peut avoir des visions sans cinéma. On peut voir, bien entendu, des choses au quotidien qui sont des visions, des éclairs forts. Et en même temps, on peut dire que l'artiste est celui qui va révéler, qui est en capacité de révéler des visions que d'autres ne pourraient pas voir. Donc je me demande un petit peu qu'est-ce qui fait qu'un artiste est un artiste au regard de n'importe quelle personne qui a aussi des visions. Et en quoi le cinéma permet d'accéder à des choses plus qu'à des visions qu'on aurait dans la vie quotidienne, finalement, des voyances. Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question, parce que c'est vraiment mettre en parallèle de la voyance, c'est-à-dire de voir les choses directement, des choses vraies. Mmh. Ce qui m'inquiète un petit peu quand on parle des artistes, ce serait ceux qui arriveraient à un moment donné à révéler des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne verrait pas, et pour autant dire qu'il n'y aurait que dans la création qu'on pourrait révéler ces choses vraies, comme s'il serait absolument impossible dans la vraie vie, sans outils tels qu'un objectif, une caméra, il serait impossible d'avoir ces révélations-là.
Oui. Donc, c'est...
Parce que, pour terminer, Jean-Claude, je cite une citation d'Henri Bergson qui dit « Si on pouvait rentrer en communication directe avec les choses, l'art serait inutile, ou alors nous serions tous artistes. Nous vibrerions continuellement à l'unisson de la nature. » Ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à rentrer en fait en unisson avec la nature et avec les choses, et qu'à un moment donné, l'art nous permet de rentrer en unisson avec les choses.
Oui, là, il y a un mot qui n'a pas été évoqué, qui, pour moi, devrait être mis en rapport, c'est la présence. C'est le fait d'être présent, qu'est-ce que je vais dire, au réel. Bon. Maintenant, c'était... se demander si inévitablement ça devait passer par l'artiste et pourquoi l'artiste aurait cette capacité de révéler, là ça me mettrait à l'esprit la pitié de Delphes, de fournir la présence. Mais non pas la représentation, la présence. C'est ça, ce que provoque l'image. Mais ce que je dirais de cette faculté de l'artiste, ce n'est pas du tout... ça serait plutôt mettre en avant la vulnérabilité de celui qu'on va dire artiste, pour pas dire la faiblesse, justement. Là encore, ça a rapport à la maîtrise. C'est l'opposé de cela, parlons encore de Bresson, dont le tournage de Mouchette a été commenté, ça a été même l'occasion d'un livre par Marie Cardinal sous le titre « Cet été-là ». Cet été-là, Marie Cardinal faisait la mère de Mouchette, mais en même temps, elle travaillait pour Godard, pour le film de « Trois choses que je sais d'elle ». Elle faisait des recherches d'ordre plutôt sociologique. Et il se trouve que la maison de production de Bresson et celle de Godard étaient dans le même immeuble. Bresson au rez-de-chaussée et Godard à l'étage. Et une des premières anecdotes qu'évoque le livre, c'est Bresson mettant en garde, surtout Marie Cardinal, de ne pas avoir contact avec ceux du dessus. Bon, il ne savait pas du tout qu'elle travaillait pour Godard. Ça donne un peu le ton du livre, qui est drôle, jusqu'à ce qu'il devienne déplaisant et même insupportable. Plaisant quand, par exemple, elle évoque la prise de la mort de la mère de Mouchette. Donc, vous voyez le film. Mouchette est devant sa mère, couchée. Elle lui éponge le front, c'est pas loin de l'agonie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de prises. Ça n'allait pas. Et elles n'en pouvaient plus, autant Marie Cardinal que celle qui faisait Mouchette. Et nerveusement, elles ont été prises d'un fou rire, et Bresson a dit « c'est la bonne ». Tout simplement parce que, vu de dos, l'effet du fou rire ou des sanglots, c'est la même chose. Ça soulève les épaules. Bon, alors, en rapport à cela, et là c'est un peu plus déplaisant quand elle s'y attarde, c'est dire que les techniciens, donc tournage classique, donc une équipe quand même assez nombreuse, étaient très impressionnés de tourner avec le maître. Donc, respectueux, etc. Au bout d'une semaine, il ne s'y retrouvait plus. Bresson ne savait pas ce qu'il voulait. Et ça le déconsidérait totalement vis-à-vis de l'équipe. Elle en fait le récit dans le livre, Marie Cardinal. Donc, ça devient assez insupportable en effet, quand elle nous apprend que n'en pouvant plus du tout, elle se fait passer pour malade et elle reste à l'hôtel. Et Bresson, inquiet de son état, va la voir pour prendre de ses nouvelles. Bon. Donc, pourquoi je parle de ça ? C'est revenir, ça s'écarte peut-être de ce que vous évoquiez, mais peut-être pas trop, c'est qu'on ne sait pas, et c'est revenir sur le risque. Quand Jean Delannoy fait avec Michel Morgan ce film qui s'appelle Marie-Antoinette, évidemment Michel Morgan, les techniciens devaient être très impressionnés, parce qu'ils savaient vraiment ce qu'ils voulaient, Jean Delannoy. Il obtenait, mais ce n'était pas plus que ce qu'il voulait. Donc, c'est là aussi la différence, entre ce qui est du domaine de l'art, qui est pour l'artiste, c'est ça en fait, de cela qu'il aurait fallu parler si je répondais précisément à ce que vous disiez, c'est très inconfortable. C'est très inconfortable, oui. On ne se met pas volontairement dans cette position. Jean Delannoy était sûrement un professionnel qui savait tout à fait... Il savait bien ce qu'il voulait et il était capable d'obtenir ce qu'il voulait. Malheureusement, c'est certain qu'il allait obtenir ce qu'il voulait. Bon, donc... C'est une faiblesse, cet état, qui rend réceptif à l'image. Et c'est évoqué dans les notes, ça aussi. Je ne veux pas dire la faiblesse, mais c'est tout ce qu'il va falloir gravir pour arriver à ce que le film existe. Donc, j'ai envie de le dire d'une manière très triviale. L'artiste, c'est vraiment un pauvre type. Ben oui.
En tout cas, vous dites que c'est quelqu'un qui est à la marge, qui est quelqu'un qui est, qui est forcément décentré et à la marge de...
C'est la condition pour voir. Parce que si on est dedans, si je puis dire, eh ben, on ne voit pas. Il faut être à la marge pour voir.
Mais pourtant, toute personne est en capacité de voir. Ce serait quand même un peu gonflé de dire qu'il y a une certaine catégorie de gens, par exemple des gens qui soient peut-être, je ne sais pas, par la force des choses, par nature, à la marge. Il n'y aurait qu'eux qui seraient en capacité de voir.
Mais de toute façon, vous avez raison de dire par nature. Parce que ça serait, je peux dire, totalement vicié ou vicieux de chercher une position, un état aussi inconfortable. Je veux dire, c'est évidemment malgré soi. Et de toute façon, s'il y avait, là encore, on reprend la notion de chercher, s'il y avait la recherche de cette marginalité qui n'est vraiment pas confortable, ça n'aboutirait à rien. C'est malgré soi. Et j'ai envie de dire, c'est par nature, en quelque sorte.
J'aimerais revenir sur la notion d'image, Parce que ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'était que, avec les années, avec la cécité, j'ai complètement perdu la notion d'image. Je ne sais plus ce que c'est qu'une image. Mmh. Et quand on parle de... Quand je voulais parler de symétrie ou quand je vous parlais de présence, il m'a fallu un long temps pour m'assurer que le monde est tout aussi présent sans l'image qu'avec l'image.
Oui.
Pourtant, en perdant l'image, alors pas cette image de la caméra, mais cette image de l'œil, j'ai vraiment eu l'impression d'être déréalisé, enfin de sortir du réel commun. Pas d'un... Oui, du réel commun, de quelque chose qui est partagé avec tout le monde. Et là, je vois dans le débat que ça marche pas mal, cette notion, parce que on vient de dire tout le monde voit. Mais non, pas tout le monde voit. Et du coup, maintenant, ce que je voulais dire tout à l'heure sur l'image, c'est il y a une présence qui... Et vous en parlez, vous parlez de cette présence qui va être à l'image, ou peut-être c'est pas celle qui est à l'image, mais celle qui est dans le monde qu'on essaie d'avoir... Enfin, qu'on essaie... Non, on n'est pas... Bon. Celle qui peut être dans l'image quand elle est dans le monde, ou peut-être il n'y a rien dans le monde, mais il y a quelque chose dans l'image... Mais je sais que des choses-là, j'ai complètement perdu la notion, je ne sais plus ce que c'est que l'image. Et pourtant, le monde est bien là, bien réel, et il y a de la présence. Et donc, ma question, c'est, je voulais vous la réinterpréter, c'est si vous définissiez ce qui spécifie l'image comme lié au monde pour un aveugle. Qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Qu'est-ce que l'image, cette présence, si vous fermez les yeux, des présences, vous pouvez en sentir toutes sortes de présences, mais qu'est-ce que va apporter l'image? Qu'est-ce qu'il y a dans cette image?
Écoutez, ce que j'ose dire, et mais merci d'être présent justement ici, ce que j'ose dire, je répète, c'est que l'image... C'est un aveuglement. Voir l'image, c'est un aveuglement. Dans le sens où j'entends l'image. Voir l'image, ce n'est plus voir le motif. Et donc, là, c'est encore faire la différence entre présence et représence, représentation. Ce n'est pas voir ce que représente l'image. C'est traverser le motif, c'est la profondeur. Et si le regard tient, combien? Il n'y a pas à compter, de toute façon, on n'est plus dans une temporalité. 5 secondes, 30 secondes, c'est très long. Bon, c'est tout simplement que le regard ne bute pas sur le motif, il traverse. Et il n'y a pas de limite à cette traversée. Et ça a rapport à cette idée justement d'abandon ou de perdre pied. Pour moi, c'est ça, voir l'image. Là, dans ces notes qui, dans certaines, datent de pas mal d'années, on doit trouver ce que je ressentais à l'époque et toujours encore. Quand la beauté se voit, on ne voit rien. Bon, c'est là que je fais la différence entre une œuvre comme celle de Vermeer ou un contemporain de Vermeer, Peter de Hoogh, qui, dans le goût de l'époque, 17e siècle hollandais, peignait, représentait des intérieurs. Donc, le motif est très semblable d'un peintre à l'autre, de Vermeer à Peter de Hoogh. Mais, quand on voit un tableau de Vermeer, on ne bute pas sur le motif. Voir un tableau de Vermeer, ce n'est pas observer. On ne peut que observer un tableau de Peter de Hoogh. Et détaillé, donc. Si on voit vraiment le tableau de Vermeer, on ne peut pas détailler. Il y a... Voir le tableau de Vermeer, c'est faire cette traversée, en fait. Et donc, ça ne tient pas dans la représentation. À propos de lignes, et je vous disais que j'avais eu la curiosité quand je me méfie des mots, j'allais dire j'ai découvert Vermeer, évidemment, que ça n'a aucun sens de parler de cette manière-là. Quand j'ai commencé à voir les tableaux de Vermeer, ma curiosité, c'était quand même me poser la question, mais pourquoi bon, et c'était me rendre compte de la composition des rapports de ligne, donc, identique de tel tableau par rapport à un autre, dont le motif était tout à fait différent. Mais la même justesse de ligne, de relation entre les lignes. Alors, il y a les lignes, puis il y a les masses, bon, enfin, tout ça, c'est des mises en relation, des correspondances. Bon, ça n'existe pas chez Peter Dorr. Donc, ce qui est extraordinaire chez Vermeer, c'est que les lignes qui font la perspective, qui sont l'application des règles de la perspective telles que les artistes peignaient à l'époque, et bien ce sont les mêmes lignes qui, dans leur relation, ouvrent, en fait. Ouvrent pas la perspective, hein, la profondeur. Ce qui fait le plus obstacle à la profondeur, c'est justement la perspective. La profondeur, elle est réelle. La perspective, elle trompe. Elle est réelle. Bon, la perspective, c'est une illusion dans un tableau. Là encore, j'aurais envie de citer Bresson. Ne pas oublier que ça finit sur une surface plane. Voilà quelque chose qui peut sembler paradoxal. C'est que la profondeur commence par la mise à plat. Et la perspective, c'est qu'une illusion. Donc, Pierre, malheureusement, je ne crois pas avoir vraiment répondu à votre question ou remarque.
Voilà trois livres qui ont tous les trois, je pense, des points communs. Le vôtre, le dernier, les draps pliés du grand lit, donc de Jean-Claude Rousseau. J'y vois un lien très fort avec Cinéma cinéaste de Marcel Hanoun. Mm. Et bien sûr, Note sur le cinématographe de Bresson. Alors, j'en viens en fait à cette... aller un petit peu plus en direct sur votre cinéma. Bresson dit à un moment donné: sois sûr d'avoir épuisé tout ce qui se communique par l'immobilité et le silence. Sois sûr d'avoir épuisé tout ce qui se communique par l'immobilité et le silence. On dirait que d'emblée dans votre cinéma ce soit le cas, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui est vraiment très épuré de ce qui pourrait être en trop. On en vient vraiment à l'essentiel peut-être de cette image voyante. En tous les cas, j'ai pas la sensation, comme je l'ai eu dans un cinéma comme celui de Bruno Dumont, que j'aime beaucoup, où on sent vraiment qu'il a un travail d'élagage permanent pour en revenir à un cinéma, bon, c'est un cinéma davantage de fiction sans doute, mais j'ai l'impression que dans le vôtre, il y a quelque chose qui surgit naturellement comme étant un cinéma excessivement épuré et simple, et je voulais savoir comment naît pour vous un film.
Oui. Donc c'est de dire directement qu'il n'y a pas de projet de film. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de projet de film, il n'y a pas l'idée d'un film, il y a quelque chose qui est d'une forme de besoin, nécessité, si ce n'est pas trop fort de dire nécessité, de voir. Et donc, en ayant le matériel, le plus souvent, je veux dire, c'est pas le plus souvent en portant le matériel, mais lorsque j'ai avec moi la caméra, je peux vérifier dans l'œil de ton ce que je devine de l'image. Et donc, si subsiste en regardant dans la caméra ce que j'ai deviné, je fais la prise. Bon, c'est imprévisible, ça peut être n'importe où, mais en parlant du lieu, d'abord le lieu, c'est ça, c'est là, à propos de lieu, où va se se répéter, là je pense à ce long métrage La Vallée Close, et le moulin de La Vallée Close. Le film va se mouliner par des retours, c'est très circulaire La Vallée Close, dans ce lieu, et en faisant des prises, mais c'est même pas que ne pas avoir idée de film me manquerait et fait que je me dirais pourquoi revenir là. C'est simplement le besoin d'être là. Mais pourquoi j'étais là si souvent? Y avait des raisons purement personnel.
Il y a une interrogation quand même. Vous parlez dans votre cinéma d'interrogation toujours et pas de réponse. Mais où se situe l'interrogation quand vous commencez un film, le questionnement? Qu'est-ce qui se questionne en vous pour qu'il y ait un film?
Non, il n'y a pas de questionnement. Là, j'allais passer à un autre terme qui serait dire pas seulement besoin, mais désir. Et finalement, là, c'était lié à un désir amoureux. Si on peut parler comme ça.
Il y avait un mystère quand même.
Quand on est dans le mystère, on ne voit pas le mystère. Donc, ça serait justement déjà reconnaître le mystère, une intellectualisation. Non. Écoutez, je vais vous dire ce que ça m'est arrivé de dire à quelqu'un concernant ce film. C'est que sans que j'avais idée de ce que ça pouvait être, ce film m'appelait là. Et je cheminais, on peut dire ça, puisque on va du petit village de Fontaine de Vaucluse jusqu'à la résurgence, jusqu'à la grotte, on suit le chemin. Et il fallait que j'y revienne, comme si un film, le film avec un grand L peut-être, m'appelait. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et ce faisant... Donc, c'est David qui citait ce passage de cette présentation de mon premier film, « Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre ». Donc, au bout d'un moment, il y a un positionnement déjà qui s'opère de ce qui a été filmé. Et comme si c'était se positionner sur une orbite. Et là... Il y a si c'est parler à nouveau de nécessité, ça serait dire la nécessité du film. Ce qu'il accueille et ce qu'il refuse. Qui peut être en soi, par exemple, une prise, dans ce cas-là, tournée en Super 8, une bobine Super 8, qui, j'ose dire, pour l'image, pouvait me sembler parfaite, le son qu'elle a rencontré s'ajustait. Très bien, et cependant, elle n'avait pas place sur l'orbite. Le film l'a refusé. Et si se devine, c'est vraiment répéter ce que lisait de la présentation de Jeune femme à fenêtre lisant une lettre, ce que lisait donc David, il suffit de quelques éléments positionnés sur la même orbite pour qu'on devine l'ensemble du cercle. C'est une manière un peu bizarre de dire les choses, mais ça peut faire comprendre comment le film finit par se deviner. Et donc, au bout du compte, parce que finalement je compte les rapports entre les bobines, pour me rassurer probablement. Me dire il y a une justesse dans l'équilibre, dans la composition, etc. Bon, mais je me trouvais avec quelque chose qui me dépassait. Et à propos de faiblesse, je peux vous dire que c'est un peu bête de dire ça de cette manière, mais j'ai envie de le dire, ça a été quand même mon chemin de croix. Là. Non pas retourner à Fontaine de Vaucluse, mais une fois le film fait, j'étais pas à la hauteur du film qui s'est fait. Et donc je l'ai découvert, mais j'ai découvert un objet qui me dépassait. Donc c'est trop insisté, je ne devrais l'appliquer qu'à moi peut-être, mais il y a bien cet état de faiblesse qui... Ça peut être douloureux, hein, qui... fait cette réceptivité. Ça passe par l'artiste, en effet. Ça passe par lui. Mais y a un aspect quand même un peu sacrificiel quand même dans l'affaire. Ça passe par l'artiste, oui.
Sacrificiel, vous entendez par quoi?
Dans la mesure où Je disais, c'est pas confortable, je peux dire que ça peut être douloureux, en effet. Il est travaillé par le, par ce qu'il fait, l'artiste. Je vais pas dire seulement par le film. Il sera travaillé jusqu'à ce que ça sorte. Je veux dire... bon, tout à fait bête de dire que ça accouche, mais bon, que ça sorte, oui. Ça travaille. Ça le travaille. C'est le film qui le travaille, c'est pas lui qui travaille. Moi, j'hésite beaucoup à utiliser le mot travail. Bon, c'est un peu trompeur. L'artiste, il est travaillé.
En tout cas, vous parlez souvent de tombeau et en tant que pour parler des artistes, etc. C'est pas très joyeux tout ça quand même.
Pourquoi ?
C'est
pas triste.
Non, c'est pas triste. C'est pas triste au sens où il y a quelque chose de aussi de merveilleux là-dedans, puisqu'il y a quelque chose qui est en travail, etc. Mais vous dites la création est n'a pas à voir avec la vie, en fait. Parce que vous dites que l'artiste se met en retrait, il y a une sorte de sacrifice, il y a quelque chose qui est...
Mais c'est pas choisi, hein.
Oui, encore une fois. Bien sûr. Et donc, qui fait que par nature, il serait, j'allais dire, poussé, amené à être dans cette forme de transcendance, peut-être, ou en tous les cas, je ne sais pas si c'est de la transcendance, mais en tous les cas, poussé à créer, qui est une forme de possibilité, en tous les cas, qu'il a. Je me demandais où se situer... Alors, ouais, j'avais une question sur l'émotion, en fait, parce que, justement, ça a voir avec la joie, peut-être. J'ai vu... Il y a un ou deux films... de vous que je trouve que j'ai trouvé joyeux, enfin en tous les cas peut-être gay, je sais pas, il y en a un en tous les cas, c'est Senza Mostra, ouais. Que j'ai trouvé joyeux, mais dans l'ensemble je voulais vous poser la question de l'émotion, parce que Bresson il en parle aussi, quoi, en fait, de cette histoire d'émotion. Et il dit, et pour ça, il évoque beaucoup la question du montage. Donc, comment des plans s'entrechoquent, et voilà. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien que vous parliez de la question de l'émotion au cinéma?
Oui. Oui, l'émotion, on l'applique de pour différents ressentis. Moi, en parlant d'émotion, je serais plutôt de ce qui pourrait être l'émotion esthétique. Quand il peut y avoir un tressaillement devant une œuvre. Donc on est troublé, en tout cas. C'est quand j'ai à l'esprit le mot émotion, il ne me vient pas dans un sens sentimental. Ça, je crois justement que c'est le grand risque là. Et la sentimentalité et le cinéma courent ce risque. Moi, je verrais, c'est un peu abrupt de faire cette distinction, mais dire que la sentimentalité, elle n'est pas... Alors ça, j'en suis persuadé, si je me permets de dire ça, elle n'est pas du côté de l'art. Elle sera du côté plutôt de la littérature. Mais pas de l'art. Ça me semble même tout à fait impossible.
C'est-à-dire que l'émotion cacherait ce qui pourrait être de l'ordre de la voyance ou d'être vu.
Bien sûr.
Comme le langage, alors?
Comme le langage?
Oui, par exemple, ou en tous les cas, trop de mots, enfin, je veux dire...
Oui, oui, bien. Ah oui, d'accord. Oui, je pense en effet que c'est un très grand risque. La parole. parce que elle peut être très vite de ce côté-là. Pas, mais c'est-à-dire, la parole, c'est un grand risque parce que elle est comprise. Et donc, on perd la matière, la matérialité. Je veux dire, s'il s'agit d'art, ça ne peut être, pour ce qui est d'un film, le matériau visuel et sonore. C'est justement, peut-être, sur des manières différentes, ce qu'on peut voir en commun entre... entre Bresson, Godard et Straub. Il faut casser la parole si peu qu'on soit distrait en quelque sorte de la vision par la compréhension et le sens qui consiste à suivre une idée. C'est ça qui est, je peux dire, terrible, en tout cas très 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 dangereux pour le film. L'image n'a rien à dire, rien à dire. Et donc, en citant ces trois cinéastes, c'est penser à telle séquence dans un film de Godard où il y a la parole, en général, elle est même criée. Et elle n'est pas forcément suivie. Bien qu'elle persiste, mais il y a un avion qui passe. Et je suis assez persuadé que l'avion ne passait pas au moment de la prise. Mais il fallait casser l'entendement. Tout à l'heure, c'était utilisé, on va s'entendre, le mot s'entendre, mais on n'entend plus, en fait. On n'entend plus le son. Alors, pour ce qui est de Bresson, on lui a assez reproché quelque chose du genre, mais on ne parle pas comme ça dans la vie. Bon, donc, c'est... Et quant à Straub, on sait comment... On lui reproche ce qui n'était pas dans un état de voir le film, en fait, ou d'entendre ce qui est un vrai son. On lui reproche la diction, ou de ne pas respecter la ponctuation. Ou de... Bon, donc... La parole, ce qui fait sens, c'est vraiment un risque. Et donc, oui, on comprend, mais on n'entend plus.
On peut continuer sur Bresson, juste une... Qui peut le moins avec le plus, qui peut avec le plus, ne peut pas forcément avec le moins. Qui peut avec le moins, peut avec le plus. Qui peut avec le plus, ne peut pas forcément avec le moins. Dans votre cinéma, en fait, est-ce qu'il y a une évolution qui va... vers ce plus, alors ce serait quoi ce plus chez Bresson?
Alors moi je relirais cela, je ne sais pas si je suis à côté du sens qu'il faut donner à cette note, mais à l'expérience que j'ai pu avoir avec le Super 8, qui est un moyen quand même le plus pauvre pour filmer. Mais si c'était dire ça en anglais, je dirais, c'est pauvre, it's poor, mais it's not cheap. Et donc, l'expérience que j'ai eue en rapport à ce que vous dites, c'est que ma caméra utilisée pour tous mes films en Super 8 était celle de mes parents, qui était une caméra Bauer, donc pour filmer, comme on a plaisir à le faire en famille. Et elle n'enregistrait pas le son. Elle n'était pas capable de grand-chose. Bon, et je me suis dit que ça serait quand même bien d'avoir une caméra un petit peu plus perfectionnée. Et finalement, j'ai acheté ce qui, à l'époque, était le plus perfectionné dans les caméras Super 8, qui enregistrait, évidemment, le son. Je l'ai gardé 15 jours. Et j'ai eu la chance de pouvoir me faire rembourser. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est qu'il y avait trop de possibles. Et ce qui, pour moi, en l'analysant maintenant, c'est dire qu'il y avait trop la possibilité d'obtenir ce qu'on voulait. C'est ça le problème, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Parce que ce n'est jamais que ce qu'on veut, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à ce qui peut survenir. Et exemple, avec cette pauvre caméra qui a fait toutes les prises de ce qu'allait devenir la vallée close, il y a la grotte là où sort, quand on est en haute zone, la résurgence. La caméra que j'ai rapportée, je ne l'ai jamais apportée à Fontaine de Vaucluse, hein, cette caméra. Je ne l'ai gardée que 15 jours. Mais il n'y aurait pas le film si j'avais utilisé cette caméra. Parce que la pauvre caméra Bauer, elle ne voyait pas le fond de la grotte. Et donc, elle m'a fait un noir qui a inspiré le film. Encore une fois, je n'avais pas ça en tête quand je filmais. Elle m'a offert ce qu'elle était capable de faire, et un noir extraordinaire, avec les personnages qui se détachent dessus.
Mais ce que vous dites...
Je vais peut-être poursuivre sur la différence entre ces deux caméras. Et comment elle m'a quand même servi à quelque chose, celle que j'ai rapportée. Donc, ayant acheté cette nouvelle caméra, je devais faire des essais pour la mise au point, etc. Et donc, j'ai fait des essais sur une carte postale, qui était une carte postale du Grand Canal à Venise. Et avec des différentes mises au point. Donc, je ne savais pas le résultat que ça donnerait. Donc, Super 8, ça veut dire laboratoire, retour au minimum une semaine après que le film soit parti au laboratoire. Et c'était une bobine qui, 2 minutes et demie en 24 images secondes, qui était floue sur au moins une minute. Eh bien, il n'y aurait pas ça. Ça n'a pas été choisi. Il n'y aurait pas le petit film qui s'appelle « Venise n'existe pas » et qui dure 10-11 minutes. Bon, alors, ce que ça a en commun, le peu de bénéfices que j'ai eu de la nouvelle caméra ou tout ce que j'ai fait avec cette pauvre caméra Bauer, c'est l'inattendu, je dirais, l'accident qui est très improbable si seulement on maîtrise le matériel et avec son perfectionnement qu'on peut obtenir ce qu'on veut.
Mais justement, là, je voulais venir parce que maintenant, vous avez un peu laissé le support Super 8, mmh, et vous êtes un peu passé au support numérique.
Mais vous dites un peu, parce oui, que ça vous aide de dire...
vous êtes complètement passé en support numérique. Et je trouve que cette question, elle est encore plus exacerbée avec la question numérique, où on a une multitude de possibilités pour réaliser l'image la plus réaliste de ce qu'on voit.
Oui.
Entre guillemets. Et comment vous avez fait comment vous êtes réapproprié cet outil numérique par rapport à tout ce qu'on vient de se dire ?
La première fois où j'ai filmé avec une caméra numérique, parce que je savais quand même la différence qu'il y a avec une caméra vidéo qui n'est pas de type numérique et la dégradation très rapide des bandes, sachant cela, comme je ne sais pas, on l'a compris, quand est-ce que qu'existera peut-être un film à partir des prises que je fais, il fallait qu'elle puisse rester intacte, c'est ce qu'on m'a laissé croire, pas de dégradation du support pendant assez longtemps. C'est comme ça que j'ai utilisé pour la première fois une caméra numérique que m'a prêté un ami. C'est d'ailleurs avec cette caméra prêtée que s'est fait le film de son appartement, cette porte est prochaine. Et il est venu chez moi, il m'a laissé, c'était pas une caméra Sony, pas très importante, et il m'a dit, mais tu liras le mode d'emploi. Je lui dire comment ça marche, au moins sur quel bouton il faut appuyer pour déclencher la prise. Bon. Et il m'a dit, tu liras le mode d'emploi. Je n'ai pas lu le mode d'emploi. Donc sûrement qu'il y avait plein de possibles, mais moi, la seule chose qui comptait, c'était d'avoir une trace par la prise du cadre que je voyais. Donc ça a commencé comme ça, sans le, là non plus l'idée d'un film. Je vois très bien ce que c'était. Je vois très bien un radiateur au dos d'une porte. Bon, il y avait un cadre là, radiateur, donc dont les éléments sont verticaux. Donc des rapports de ligne qui me convenaient, j'ai fait la prise. Et dans ce lieu, c'est toujours à partir du lieu, quoi, j'ai fait d'autres prises et Bérénice est arrivée dans l'appartement, en quelque sorte. Bon, dans la relation qui commençait à s'établir entre les prises. Donc, j'ai acheté par la suite une caméra haut de gamme, comme on dit, Sony, une caméra numérique. Je n'ai jamais cherché à utiliser tous les trucs que rend certainement possible cette caméra. Je crois, c'est parti de cette note de Bresson, que il faut vraiment se méfier des possibles, toujours plus possibles que permettent les nouvelles techniques. Là, je peux vous dire que je suis sûr, est-ce qu'il faut dire comme ça, un film, à partir de prises que j'ai faites à Prague, avec mon smartphone. Et je me trouvais là sans pied, parce que vous savez qu'il y a un système pour mettre le smartphone sur pied. J'avais pas le pied, mais j'avais le système qu'un ami m'a donné. Il y en a qui sont très gentils avec moi. Donc j'avais le support qui permet de poser sur un pied le smartphone. Je n'avais que le support, mais je n'avais pas le pied. Parce que là, c'est quand même, si c'est vérifié dans la caméra, quelle qu'elle soit, et il y a quand même une caméra sur ces smartphones. Bon. Il faut que ce soit au bon niveau. Hein. Donc j'avais déplacé le réfrigérateur de la chambre d'hôtel où je me trouvais. J'avais posé dessus, en la retournant, une corbeille à papier qui était à côté du bureau. Puis j'avais décroché le boîtier métallique dans lequel se trouvait dans la salle de bain les Kleenex. J'avais posé ça dessus et par-dessus le smartphone qui commençait par faire des prises un peu agitées. Et voilà, la seule chose qui comptait, c'est avoir, c'est terrible de dire avoir, mais bon, avoir le cadre, oui. Ah, ouais. Je préfère dire voir le cadre plutôt qu'avoir le cadre. Oui.
Mais est-ce que c'est compatible, du coup, la notion de cadre avec la notion de voyance, hein, de la composition?
Et pourquoi vous me dites ça? Non, mais attendez, c'est pas le fait que ce soit compatible. C'est la même chose. Mm-hmm. Ou c'est la condition. Voir, c'est voir l'image, et l'image, c'est une justesse dans le cadre. Alors on va chercher pourquoi, donc on revient au rapport de ligne, etc., non, qui permet la traversée, qui fait que le regard ne bute pas. Mmh. Et dans ce qu'on peut dire la contemplation, ce que je dirais, et je le dis dans ce petit livre-là, c'est pas l'objet qu'on contemple, c'est l'image de l'objet. C'est l'image qui vous saisit, l'image qu'on a de l'objet. Et donc, c'est toujours sur une mise à plat. Alors, à force de parler de ça, c'est peut-être moins paradoxal, mais la profondeur commence par la mise à plat.
Donc, ça a à voir directement avec la peinture, alors.
Oui, ben, l'image, oui, c'est ça. Et c'est ça le truc, c'est que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse et tout ce qui se fait et qui est montré par cette multitude de films, et ben quoi que ce soit, ça ne peut être qu'un art, le cinéma, ça ne peut être qu'un art puisqu'il s'agit d'images, ça ne peut pas être autre chose qu'un art.
Dans le revers de votre livre Les draps pliés du grand lit, la dernière phrase c'est « Il faut les lire comme un chant d'amour intimement.
Mmh. » Et j'ouvre le
livre par la fin et je lis « Quand le baiser est sur la bouche, le plus souvent, les yeux se ferment. »
Ça va de lire ça, non? C'est...
Oui,
c'est, je veux dire. C'est...
Alors, sur la question du chant d'amour, et je trouvais ça intéressant quand on parlait d'image et que quand on est très proche, ben on ferme les yeux. Alors, il n'y a plus d'image.
Oui, mais alors il y a un autre passage qui peut mettre en rapport à cela. Ou même de passage, que je pourrais pas citer comme ça, mais si on, c'est un peu ça, si on ne garde pas la distance, on ne voit plus le paysage. Si on s'approche du paysage, le paysage disparaît. Il faut tenir la distance pour continuer à voir le paysage. Évidemment, il y a ce désir réfréné, tout autant que celui de toucher nos limites tangérées, pour s'assurer de... C'est du même ordre. Ne me touche pas. C'est le même geste, en quelque sorte. D'approcher l'image, en quelque sorte. Parce que le paysage que l'on voit et qui tient le regard, c'est une image. Si on s'approche, il n'y a plus d'image. Mais ça, c'est... C'est de la vie courante, je pourrais dire. Regardez un petit peu ce désastre au niveau de ces beaux paysages que ceux qui en ont les moyens ont voulu rejoindre en y faisant construire des maisons secondaires très coûteuses sur la côte. Bon, le paysage est détruit. Ça me fait penser à ce qu'on voit à Bandol, où je suis allé quand même assez souvent. Parce que mes parents, ils avaient un studio. Ils ont bétonné la colline. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit. C'est terrible. C'est terrible. Le maire qui a autorisé ça, il mérite encore d'être une condamnation. Oui. Donc c'est un rapport à ce que je dis. Puisque... C'est beau et on ne peut pas ne pas c'est difficile de résister à ce désir d'atteindre, comme de toucher ou d'y être. Non.
La tentation.
Ouais. Ça ne subsiste que si on garde la distance.
Et qu'est-ce que vous vouliez exprimer en disant il faut les lire comme un chant d'amour intimement?
Bon, alors vous avez deviné la
on est quoi illusion. À Genet?
Bon, évidemment. Mais non, au-delà de ça, et je dirais que ça fait ce petit livre hein, qui n'est pas grand-chose. Mais je dirais que ça fait une grande différence avec les notes sur le cinématographe de Bresson, c'est que c'est finalement une expérience personnelle, chant d'amour, et en quelque sorte amoureuse. Et si vous voulez, mon impression... ça peut se lire, il me semble, justement parce que ce qui pourrait être pris comme quelque chose de très péremptoire se trouve en quelque sorte, cet aspect péremptoire, cassé par des notes qu'on rencontre qui sont écrites à la première personne, mais là il y a beaucoup en fait de on pourrait dire de la manière dont mes films se font et aussi bien la vallée close, c'est à propos de vie, c'est du vécu, c'est notes. Quand ce qui a fait le titre, on lit « C'est un handicap d'être seul quand il faut plier les draps du grand lit », ça c'est un tout autre ton, évidemment, que ce qu'on peut lire dans les notes magnifiques de Bresson. Et... dans telle note qui précède, celle que je viens de dire. Donc là, s'il y a une liaison, il s'agit, donc, on peut le penser, de lier les éléments, les prises, raccords, ce qui pour moi ne va pas du tout, accord mais pas raccord, mais ça continue s'il y a une liaison, qu'elle soit amoureuse. Parce que c'est de cette manière que, pour moi, le cinéma, donc, et j'ai dit ce que j'en pensais, qui ne peut être que du côté de l'art, du fait des images, mais foncièrement, je ne sais pas si on peut dire foncièrement, fondamentalement, c'est érotique, le cinéma. Ça ne peut être que cela. Parce que, à propos d'accord, plutôt que de raccord, c'est que les éléments, alors qu'est-ce que je vais dire, les plans ou les bobines, quand je tournais en Super 8, qu'elles se plaisent, qu'elles consentent, qu'elles tiennent justement par un effet d'attraction. Et non pas parce que, pour dire, on l'a relié, on l'a bloqué en la reliant à la prise précédente, disons, le plan relié au plan qui précède, à celui qui suit, et donc, mais là il n'y a plus d'image. Parce que, encore une fois, l'image, on l'utilise, si c'est cela, comme un signe d'écriture. Et l'image disparaît.
Donc le pire ennemi du cinéma, ce serait la séduction. Hein? Le pire ennemi du cinéma, ce serait la séduction.
Comment ça?
Bah, dans la séduction, il y a cette idée de vouloir plaire.
Mais Je ne sais pas si on peut parler d'érotisme sans évoquer la séduction. Oui. Donc, je dirais qu'elles se séduisent les unes les autres. Il y a du désir, évidemment. Mais quand je disais s'il y a une liaison, qu'elle soit amoureuse, donc c'est dans ce sens-là, mais en l'appliquant aux éléments qui vont faire le film, et qui, évidemment, ils vont se succéder. Mais librement, et quand je dis librement, c'est qu'il y a la liberté d'établir, n'étant pas bloqué par le raccord, d'établir des relations sur l'ensemble, et de l'une à l'autre. Enfin, quand je dis de l'une à l'autre, sur l'ensemble de ces éléments qui constituent le film et qui tiennent sur la même orbite et qui désignent par là même le même centre qu'on ne peut pas montrer.
Ce centre-là, donc, ça serait le désir qui oriente les choses vers ce centre-là.
Mais c'est aussi en parlant d'une autre manière, mais du domaine de la physique, il y a un centre de gravité. Ça gravite. Et donc, il y a une attraction. Alors, on peut dire attraction plutôt que désir. C'est la même chose.
On a parlé beaucoup d'images, on n'a pas parlé de son. Malheureusement, le temps s'achève. Peut-être, Pierre, est-ce que tu as une dernière question? Les 1h20 sont passées.
Non, tout va bien. Tu es sûr, une dernière question sur le son? Une dernière curiosité? Une dernière attraction?
Mais on a quand même parlé du son en disant que c'était un matériau. Et le risque, c'est que ça ne le soit plus.
Un matériau qui permet de...
voir. Alors, sur le son, un matériau qui va rencontrer l'autre, qui est l'image. Moi, je me rappelle une projection de La Vallée Close au Frénois. Jean-Marie Straub était là et c'était me demander à la fin du film comment se font, dans certains moments du film, ces fulgurances. Je savais vraiment pas quoi lui dire. Puis après, il s'était retrouvé évidemment au bar, là, dans le hall de la salle de projection du Frénois, et j'ai trouvé à lui dire, c'est quand le son touche l'image. Quand le son touche l'image. À propos d'émotion, ça, c'est totalement bouleversant. Je peux vous dire que si c'est juste, je le ressens et j'en pleure. C'est extraordinaire, ça. Parce que, évidemment, c'est indépendant du sens. Donc, du temps où je faisais du Super 8, quand une plage de 2 minutes 30 d'image rencontre un son, le filmage s'est fait sans enregistrer le son, hein, rencontre un son qui s'ajuste d'une manière si précise qu'il y a quelques points dans les 2 minutes 30 où le son touche l'image, et bien ça fait une étincelle.
C'est la question de la beauté.
Ah ben, la beauté, c'est effrayant, oui.
Merci Jean-Claude. Voilà, l'émission touche à sa fin. La beauté, c'est effrayant, mais pas que. Merci David, merci Fabrice, merci Pierre. Merci beaucoup Jean-Claude Rousseau de cette promenade bien intense. On peut écouter l'émission sur Radio Galère 88.4. Elle sera en podcast sur dérive.tv. Nous vous souhaitons une belle écoute et un beau mois de février. Au revoir.